France Culture.
Les midis de culture. Marie Laborie.
Elle fait partie d'une nouvelle génération de poètes. Elle dit, elle écrit le sexe, le corps, les rapports de pouvoir avec une langue crue et précise. Rime Battal sort son premier roman, Je me regarderai dans les yeux, c'est son titre. Elle sera mon invitée à 13h. Mais en attendant, on critique. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'actualité de la photographie avec l'exposition On Mass Hysteria, une histoire de la misogynie de l'artiste Laïa Abril. C'est au Bal, à Paris. Et puis, la photographie à tout prix, la BNF revient sur les lauréats des 4 prix dont elle est partenaire, notamment le prix Niepce. Voilà, vous connaissez le menu. Bonjour, bonjour. Voici les convives. Sally Bonne, maître de conférence en esthétique à l'université Picardie. Jules Verne, auteur, critique d'art et commissaire d'exposition. Bonjour.
Bonjour Marie.
Philippe Azoury, journaliste, critique et auteur.
Bonjour Marie.
Bienvenue à tous les deux.
Petit temps de retard.
Mass Hysteria, le groupe de métal français, ne nous instruit pas sur le phénomène décrit depuis le Moyen-Âge et qu'on a appelé l'hystérie collective. Aujourd'hui, on dira maladie psychogène de groupe. Mais la plasticienne catalane Laïa Abril a choisi de conserver l'appellation ancienne pour tous les présupposés misogynes qu'elle contient. Dans l'exposition au Bal à Paris, elle décortique et analyse 3 épisodes, 3 études de cas. Une épidémie de paralysie dans un pensionnat catholique de jeunes filles au Brésil. Une épidémie d'évanouissement chez les ouvrières d'usines de c'est au Cambodge, et une épidémie de tiques dans un lycée de New York. Dans la très grande majorité des cas, ces crises touchent des femmes et la plupart vivent dans des systèmes répressifs. À travers des archives, des photos, des rapports, Laïa Abril montre comment les facteurs sociaux et politiques sont ignorés au cours de ces manifestations de souffrance pour être très souvent, trop souvent, psychiatrisés ou minimisés. On commence avec un avis rapide de l'un et de l'autre. Philippe Azoury.
Une expo sombre, énigmatique, mais ces mots qui peuvent faire peur, enfin là cette fois-ci ils résonnent de façon plus intrigante. Enfin, je pense que c'est une expo incisive. Elle m'amène à m'interroger, à nous interroger.
Sally Bonne.
Une installation magistrale, sombre, je reprends aussi le terme, didactique, documentaire, parfois peut-être un peu trop.
Merci beaucoup. Alors Philippe, qui amène à s'interroger sur quel point?
Ah, c'est une vaste question. Je crois qu'il faut d'abord déplier l'ensemble du projet. En fait, ça fait quasiment 10 ans maintenant que Laïa Abril mène cette histoire de la misogynie. Elle a commencé en 2016, enfin la première exposition datait de 2016. 3 volets. Le premier, de souvenir, c'était On Abortion, sur l'avortement. Le second, On Rape, sur le viol. Et donc ce troisième qui interroge l'hystérie, non pas par le bout par lequel on aurait pu croire qu'elle l'aurait pris, c'est-à-dire Charcot, l'invention de l'hystérie, les femmes hystériques, mais par des phénomènes donc d'hystérie de masse, mais qui sont des phénomènes qui sont toujours qui concernent des communautés de femmes, qui sont confrontées à des situations de stress majeur ou d'oppression, et dans lesquelles on entend rugir des symptômes collectifs qui sont dépourvus de causes physiologiques, c'est-à-dire évanouissement, crise de nerfs, choses comme ça. Et on est face à, donc là, dans 3 cas. 3 cas d'une... Enfin, tout est dans le titre, je veux dire, une histoire de la misogynie, c'est une histoire de l'ennemi. Et ça renvoie, c'est presque un essai politique. Enfin, en tout cas, elle le pense à la fois comme un livre, parce que chaque livre qui accompagne l'expo est très très beau, mais elle pense réellement le projet d'une certaine manière en rime avec l'histoire de la sexualité de Foucault. Ça pourrait être, donc, on pourrait dire que disons que chaque expo est un volume. Enfin, voilà, c'est un volume supplémentaire. Et c'est comme ça aussi qu'il faut rentrer dedans. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de lire, il faut prendre le temps de regarder tout ce qui est de l'ordre de l'archive, de la trace, d'écouter, le temps de comprendre un peu ce qui se passe autour de nous, parce que c'est pas si évident. L'expo est à la fois, Sally le disait, didactique, certes parfois trop, et je pense qu'on en parlera aussi tous les deux, on peut avoir une gêne, mais il y a un travail qui est sur du temps long, c'est-à-dire il y a aussi la façon dont l'expo a travaillé ensuite sur nous, très longtemps après. Moi je l'ai vu il y a 3 semaines, elle ne cesse de grandir, elle ne cesse de s'améliorer. Effectivement c'est assez magistral du point de vue de l'accrochage de l'installation. Donc voilà, on interroge une violence qui est systémique, mais on le fait avec avec les armes de la photographie documentaire aujourd'hui, c'est-à-dire pas simplement la photo. Mmh. Et c'est ça qui est fascinant.
Sally Bonne, vous disiez, voilà, photographie documentaire, mais effectivement, il y a énormément d'archives, de rapports, voilà.
Alors, c'est un très impressionnant dispositif de monstration du travail. On rentre dans un espace qui est extrêmement sombre, les murs sont noirs, les photos sont en noir et blanc, celles qu'on voit. Et en fait, quand on rentre dans cette pièce du bas du bal, parce qu'en haut, il y a un film, on en reparlera peut-être après, mais qui est en fait plutôt la conclusion de l'exposition que son ouverture. Donc, on rentre dans un espace très, très sombre et en fait, les quatre murs de l'espace sont, il y a une longue ligne de dossiers d'archives sur lesquels on voit simplement une fiche avec cas numéro 1, cas numéro 2, cas numéro 3 et dans un ordre chronologique, on suit en fait l'histoire de ces hystéries de masse depuis le 15e siècle en France, en Europe, au Pérou, au Mexique. Enfin, il y a absolument tous les pays. C'est d'ailleurs ça qui est absolument fascinant, hein, c'est de voir que depuis des siècles, et partout dans le monde, ça veut dire quelle que soit la culture, quelle que soit la religion, quel que soit l'environnement, en fait, ces hystéries collectives existent.
Et elles ont un point commun quand même.
Et elles ont un point commun, c'est effectivement, Philippe l'a dit, hein, on est dans des lieux d'enfermement tels que Foucault les pensait, hein, ces lieux d'enfermement, auxquels s'ajoute quand même, par rapport à ce que Foucault pensait en termes de lieux d'enfermement, la question de la domination féminine, c'est-à-dire la domination sur le corps des femmes. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et donc, on voit ça. On voit d'abord, en fait, on voit rien. C'est-à-dire qu'on voit simplement des dossiers d'archives qui sont accrochés sur des murs extrêmement sombres. Et donc ça parcourt l'ensemble et on est entouré en fait par cette dimension presque administrative du relevé. Si on soulève les fiches de ces dossiers d'archives, on voit dessous des photocopies avec des textes souvent en langue étrangère parce qu'ils correspondent au cas du pays. Donc si on lit pas l'anglais ou si on lit pas l'espagnol ou si on lit etc, on peut être un peu gêné. Parfois quelques images aussi qui sont des images d'archives pour les cas du 15e, 16e, 17e et des photos, enfin des, comment dire, des photogrammes d'émissions de télévision pour les cas les plus récents.
Oui,
donc on traverse ça, on soulève, on regarde, on lit plus ou moins. Et puis il y a ces trois cas ensuite qui sont plus spécifiques que vous avez évoqué, Marie. Donc le Mexique, la paralysie des jambes dans un pensionnat catholique, le Cambodge, une épidémie d'évanouissement dans des usines de confection, et puis une ville aux États-Unis, une épidémie de tiques dans un lycée. Ces trois cas sont, en fait, on est comme dans une espèce de petite pièce. Il y a des photographies qui sont, et c'est là où pour moi il y a un petit peut-être un écart en fait qui se fait entre la puissance d'évocation de ce travail qui est un travail vraiment de recherche, d'enquête, et on pourra en parler parce que la question de la recherche création dont on parle beaucoup en fait dans le champ artistique ces derniers temps finalement se trouve là évoquée peut-être jusqu'à son endroit problématique, c'est-à-dire l'endroit où la recherche prend le pas sur les images. C'est un petit peu le cas dans ces espaces où on a une présence sonore extrêmement forte qui est en fait, ce sont des témoignages, hein, des témoignages des jeunes, des ouvrières au Cambodge, ou des jeunes filles dans le lycée, ou des jeunes filles dans le pensionnat catholique. Donc on a ces voix, on a ces récits qui sont extrêmement forts et qui sont assez terribles. Et on a des images au mur, en fait, dont on ne sait pas en fait ce qu'elles disent et ce qu'elles recouvrent. Et en fait, finalement, le récit, l'archive, le texte, le document prennent un peu le pas sur ce qui pourrait être en termes d'image, ce qui pourrait ressortir en termes d'image. Et Philippe l'a évoqué, hein, c'est le dernier volet d'une trilogie, la première sur l'avortement, la seconde sur le viol. Ça avait été exposé aux Rencontres d'Arles en 2016, remontré d'ailleurs la série sur l'avortement au Centre Pompidou l'année dernière, sur le viol au Filles du Calvaire en 2020. Et il y avait une présence des images extrêmement forte.
Elle avait une approche très différente, finalement.
Oui, en tout cas, en termes de ce qui est proposé, en termes de dispositifs de monstration, on avait une présence des images beaucoup plus forte. C'est peut-être Alors, je n'arrive pas à savoir si c'est le sujet lui-même qui produit ça ou si c'est la question de l'archive, en fait. Mais en même temps, beaucoup d'artistes utilisent les archives et ne tombent pas dans ce qui me semble un petit travers, c'est-à-dire un surcroît, en fait, de documentation au détriment, parfois, d'une puissance des images.
Mmh. Philippe Azoury, sur ce point-là ?
Non, j'entends absolument ce que dit Sally, dans la mesure où c'est exactement ce que j'ai vécu au moment de voir l'expo. C'est-à-dire, effectivement, j'avais vu les deux premiers volets. J'étais très, très étonné par les images que l'on voit dans la troisième, qui ont effectivement un rapport qui semble arbitraire, on va dire.
Qu'est-ce qu'on voit sur ces images ?
On voit des zones d'ombre, on voit des flous, on voit des très, très gros plans qui sont quasiment presque de l'ordre de la biologie. C'est-à-dire, on n'est pas sur une désignation absolue, alors que le reste justement fait plutôt pièce à conviction, voire document à charge. On se dit mais qu'est-ce qu'elle fabrique avec ça ? Est-ce qu'elle croit plus du tout en la photographie ? Je me suis posé cette question. Peut-être qu'elle y croit de moins en moins. C'est possible. Quand elle avait fait le sujet sur l'exposition sur l'avortement, c'était beaucoup plus littéral. Enfin, on voyait des instruments, enfin des choses qu'il faisait comme ça. Voilà. Il suffisait de les voir pour ressentir en sa propre chair, même garçon que je suis, quelque chose d'une violence. Là, on est dans l'infra, on est dans le microscope, c'est-à-dire je pense que sa recherche, parce qu'elle se positionne à la fois comme photographe et comme chercheuse, sa recherche l'amène à la fois à éclaircir ce que finalement sa conviction à elle, c'est qu'elle travaille effectivement sur une histoire de la nuit, mais elle travaille aussi sur une histoire de l'invisibilisation. Et moi, c'est ça que je trouve fascinant finalement quand j'y réfléchis progressivement, c'est qu'il n'y a pas d'homme dans ces photographies. Il n'y a quasiment pas de femmes. C'est autre chose qui se passe. On est sur du flou, on est sur des effets d'invisibilisation, et c'est ça, je crois, qu'elle essaye de nous faire entendre. C'est-à-dire, on est à un endroit où l'humain a quasiment disparu, c'est le système qui travaille. Et l'humain, pour le retrouver, il faut le traquer quasiment au microscope. C'est-à-dire, il faut aller du côté de la biologie, littéralement, pour essayer de retrouver quelque chose d'une trace humaine dans ce qui n'est plus qu'un enfermement dont on entend effectivement des voix. Et notamment dans la pièce cambodgienne, qui, à mon sens, est la plus belle des trois, ça résonne très très fort. Parce que ce qui est raconté est limpide en termes de comment cerner une jeune femme qui travaille à l'usine, les garçons qui viennent les attendre, qui les suivent, pour que finalement elles ne sortent plus. Enfin, elles vont à l'usine, elles retournent chez elles, et la vie devient un enfer. Et là, on voit effectivement ces très très gros plans, noir et blanc, ces zones de flou, et on comprend que finalement l'humain a complètement... Même le rapport homme-femme a disparu. Enfin, je veux dire, ça n'est plus qu'un système d'oppression.
Est-ce qu'elle décrit donc ces systèmes d'oppression qui produisent ces phénomènes-là qu'on a appelés d'hystérie collective ? Ça éclaire sur les plus anciens, enfin sur les événements qu'on connaît du Moyen-Âge, de ces expressions-là ?
Ben, ce qui est en question, c'est justement là. En fait, ce qui est intéressant et ce que ça produit ce travail, c'est de montrer. Et c'est ce qu'elle cherche à montrer, que finalement, ces expériences collectives, qui sont souvent des expériences collectives de mimétisme, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un évanouissement produit, en fait, une série d'évanouissements, mais tout ça est issu, d'un système d'enfermement, et que, au fond, ces manifestations du corps des femmes est une forme de résistance, est un langage de résistance, parce qu'il n'y a plus rien d'autre, en fait, qu'il ne leur reste que ça. C'est-à-dire, alors il y en a qui mordent, il y en a qui miaulent, il y en a qui s'évanouissent, il y en a qui ont des tics absolus. Enfin, les manifestations sont extrêmement impressionnantes. Et justement, c'est ça, en fait, ce qui m'a poser problème et que j'ai finalement retrouvé dans le catalogue est extrêmement réussi.
Le catalogue est magnifique.
Il est absolument magnifique.
Chez Delpierre.
Parce que justement, il parvient à produire un effet, en fait, d'équilibre entre parfois de la puissance des images qui sont effectivement floues et qui sont montrées comme telles, même des images qui proviennent d'images télé. Parce qu'il y a eu une documentation télévisuelle sur des jeunes filles qui s'évanouissent ou qui peuvent absolument plus marcher. C'est aussi, enfin, il y a des choses qui sont très 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 étonnantes. Et ça est en fait montré avec les documents qui sont un petit peu cachés en fait dans l'espace puisqu'il faut soulever, etc.
C'est bien.
Et donc là, le catalogue il est absolument splendide parce qu'il est extrêmement réussi. Et en fait, en regardant le catalogue, je me suis dit mais peut-être que cette la dimension assez magistral et impressionnant du dispositif aurait peut-être bénéficié de ce rapport-là tel qu'il est montré dans le catalogue.
Philippe Azoury, un dernier mot rapide?
Oui, non, tout à l'heure, j'émettais un doute. Je me disais peut-être qu'elle ne croit plus du tout encore à la photographie. Et je pense qu'en fait, au fur et à mesure que l'expo, grandit en moi, je crois qu'au contraire, elle croit énormément à la photographie pour proposer de tels écarts, quelque chose d'aussi arbitraire, qui finalement nous invite à douter de tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, parce que l'histoire de la misogynie, c'est l'histoire d'un grand aveuglement et d'un grand assourdissement. Il faut vraiment croire beaucoup en la photographie pour arriver à produire de façon aussi arbitraire de tels effets et les faire résonner.
C'était donc Laïa Abril on Mass Hysteria / Une histoire de la misogynie, et c'est jusqu'au 18 mai au Bal à Paris. Et on l'a dit, le catalogue est sorti aux éditions Delpier & Co. Et je précise que le Bal organise une série de tables rondes avec notamment jeudi 13 février notre consoeur Pauline Chanu dans la série documentaire Les fantômes de l'hystérie, histoire d'une parole confisquée, est disponible en podcast sur le site de France Culture.
Qu'est-ce que veut dire une belle photo, une bonne photo?
Si la photo est bonne.
Pour moi, le critérium d'une bonne photo, c'est une photo inoubliable, c'est-à-dire qu'il a une telle force percutante et elle survit.
Pour la quatrième année consécutive, la BNF expose les lauréats des Grands Prix de la photo dont elle est partenaire. Une exposition, ou plutôt des expositions gratuites, ouvertes à tous, qui permettent de jeter un œil sur les talents de la photo contemporaine. Quatre prix sont représentés ici. Le plus prestigieux, on va dire, c'est le prix Niépce, créé en 1955. C'est le premier du genre d'ailleurs, qui distingue le travail d'un photographe ou d'une photographe confirmée de moins de 50 ans. Et c'est Annelise Broyer qui a été récompensée aujourd'hui. On va en parler un petit peu, on va parler des autres prix aussi, mais d'abord Annelise Broyer-Sally.
Alors, c'est pas facile de parler de cette exposition, puisque c'est une exposition, un ensemble assez disparate, et qui est plutôt un panorama de la photographie actuelle, d'où se dégagent certaines œuvres, notamment effectivement celle d'Annelise Broyer. Je trouve que c'est extrêmement heureux qu'elle obtienne ce prix, parce que c'est un travail extrêmement singulier, très. Qui est caractérisé par une exigence du regard, un regard qu'on pourrait dire antérieur à la fabrication de l'image, qui se forme en quelque sorte derrière l'œil, pour reprendre une formule de Caspar David Friedrich, que ce serait l'œil de l'esprit. Et c'est dans un dialogue constant en fait avec la littérature que se construit ce regard. C'est vraiment, elle interroge depuis plusieurs années avec une très grande subtilité et une très grande finesse, la manière notamment dans la littérature et la poésie, mais aussi l'expérience de la lecture déclenche l'image. Et ça produit en fait un univers d'images photographiques qu'elle met en œuvre et qui est souvent appelé par du texte. Hein, et on le voit d'ailleurs dans les séries qui sont proposées, parce qu'il y a quatre séries qui sont proposées. Donc c'est une espèce de fabrique de phrases photographiques à laquelle l'installation de ces images à la BNF rend plutôt bien hommage, puisqu'elle l'inscrit dans une linéarité qui est proprement narrative. Et donc, on a ces différentes séries issues d'univers divers, hein, où sont exposées des photographies qui mélangent la couleur et le noir et blanc.
Il y a beaucoup plus de noir et blanc.
Beaucoup plus de noir et blanc. Des formats différents, parfois du dessin à la mine graphique, c'est aussi ce qui caractérise son travail, c'est-à-dire des images qui sont parfois rehaussées par un travail de dessin, et c'est assez exceptionnel à voir. Alors, ce qui caractérise la photographie d'Alice Broyer, c'est aussi des images qui sont volontairement grises et assourdies. Des images qu'on pourrait presque dire sans qualité, parce qu'elles ne cherchent pas le spectaculaire. Et c'est là où je parlais de subtilité et d'exigence du regard. C'est-à-dire que dans cette absence de spectaculaire, finalement, ces images viennent creuser dans l'épaisseur du réel et qu'elles traversent. Donc, il y a quelque chose qui peut-être d'une certaine manière qui pourrait paraître en fait d'une forme d'une sorte d'inactualité, mais au fond qui est pour moi une actualité précisément extrêmement contemporaine, qui parfois joue sur des rapports quasi politiques en fait à ce qui est montré. Alors il y a ces quatre séries. L'une, la première, Journal de l'œil, les globes oculaires, autour de l'univers de Georges Bataille. La deuxième série, La maladie du sens, qui est autour du poète Bernard Noël et Stéphane Mallarmé. La troisième, qui est un travail en cours absolument passionnant, qui est en fait un travail sur les pourtours de la Méditerranée, des images en noir et blanc quasiment toutes du même format, qui travaillent à rendre compte de la temporalité à l'œuvre autour du bassin méditerranéen, où se confrontent les ruines du passé et un imaginaire qui nous a construit et la réalité d'un présent parfois dévasté. C'est une série absolument splendide, hein, qui s'appelle Est-ce là qu'on habitait, et qui en fait qui est à l'occasion d'aller dans tous les pays, certaines villes et certains espaces des bords de la Méditerranée, et qui est en cours. La dernière partie de ces quatre séries, c'est Le temps est caché dans les plis d'une fleur, et là c'est un travail autour de la Normandie avec ce que la Normandie nous renvoie en imaginaire littéraire. Donc on a Flaubert, Proust et Duras.
Voilà,
et donc dans des jeux comme ça de confrontation temporelle et d'entrelacement de temporalité, les images sont absolument splendides, et il y a quelque chose d'une sensibilité qui est vraiment à fleur des images, qui se construisent en fait dans un dialogue les unes avec les autres, et qui construisent un récit absolument magnifique.
Philippe Azoury sur Anne-Lise Broyer, alors non spectaculaire et en même temps splendide, c'est ce que dit Sally.
Oui, d'abord je voudrais revenir sur effectivement le côté, est-ce que c'est encore une exposition, ce que nous propose la BNF, le rassemblement des quatre prix. C'est évidemment artificiel, ça fonctionne beaucoup plus, c'est pas non plus un groupe show, comme on dit, aux anglo-saxons. C'est pas tenu par un fil, enfin, ou une thématique commune. C'est réellement quatre prix qui se succèdent, c'est quatre, un peu plus que quatre, en tout cas, voilà, c'est, puisqu'il y a,
on va y revenir, oui.
Voilà, des autres, il y a au moins quatre photographes. Mais en tout cas, une suite comme ça d'individualité, une suite de petits îlots comme ça, une suite de rencontres, inégales évidemment, dans la façon aussi dont c'est montré, mais c'est vrai que c'est le prix NIEPS qui est le plus vieux prix photo français, je crois.
Oui, les deux, enfin, Nadar et NIEPS, c'est 55 ans.
Oui, voilà, 55, ce qui dit quand même aussi à un moment donné qu'est-ce qu'on attendait à ce moment-là à partir de 55 de la photographie, et la volonté quand même de désigner des gens. Pour le prix NIEPS, c'est moins de 50 ans, c'est le photographe de moins de 50 ans, mais qui ont quand même un travail qui arrive à maturité. Et c'est vrai que dans le cas d'Anne-Lise Broyer, on est d'abord saisi par l'assurance du geste, par la maturité. Je ne sais pas si c'est un mot très, très attrayant comme ça quand on le dit à la radio, mais surtout lorsqu'elle se confronte à un sujet qui est aussi volcanique, parce qu'on parlait des volcans juste avant, que la littérature de Georges Bataille. Enfin, je veux dire, c'est d'abord, moi, ce qui me frappe, c'est quand je vois ces séries, c'est leur calme. Elle arrive à ramener, c'est-à-dire la littérature de Bataille, du côté du lecteur, c'est-à-dire du côté du silence, du côté, il y a un côté presque plus Blanchot à la limite que Bataille, du côté du silence, du côté d'un lien qu'on peut entretenir soi-même avec ce qui sort et qui n'est pas littéral. Alors quand c'est littéral, comme par exemple, évidemment l'œuf, histoire de l'œuf, ça renvoie à l'œuf, c'est presque là où ça marche le moins. C'est très très intéressant quand elle commence à photographier des paysages, notamment des forêts. Alors peut-être quand on le sait pas, on peut se dire bon, qu'est-ce que ça vient faire avec l'auteur de ma mère, mais ça renvoie à toutes les rumeurs qui n'ont jamais été vérifiées et sans doute non fondées, mais de la communauté, en plus de la revue Acéphale qu'avait monté Bataille avec Lossowski en 1936, et qui aurait organisé un sacrifice humain, ou qui planifiait d'organiser un sacrifice humain pour aller au-delà des questions du mal, des questions du sacré, ou des questions du dépassement de l'être, ou de l'existence de soi. Tout le travail d'Anne-Lise Broyer, elle était assez proche d'ailleurs d'André Labarthe, renvoie à un film. Dans mon souvenir, il y a 5 ou 6 ans, elle avait participé à un livre qui reprenait sur ce film que André Labarthe avait proposé au milieu des années 90 pour une collection télé qui s'appelait, Écrivain de notre temps, peut-être quelque chose comme ça. Il y avait plein comme ça, c'était sur la troisième chaîne, sur la 3. Et Labarthe avait fait un Bataille à perte de vue où il revenait beaucoup sur l'expérience acéphale, sur les forêts, il y avait une mise en scène. Et je sais que j'ai l'impression qu'Anne Broyer fait partie de cette génération, qui est à peu près la mienne aussi, qui n'a pas découvert Bataille, mais qui a reconsidéré la vision de Bataille à partir de ce film-là. Et j'entends des traces de ça dans sa photo. tout ce qu'ensuite Sally a dit, j'adhère complètement, c'est-à-dire rehausser à la mine graphique, ces couleurs qui sont presque passées, et en même temps, des fois, je me dis qu'il y a peut-être, dans ce calme-là, je me demande où est, il faut bien que je fasse un peu le bad cop, ce que Yannick Enel, dans un texte qu'il avait écrit justement pour Alice Broyer, disait l'exubérance d'un monde qui se moque de cette existence et s'apprête à l'anéantir, qui est propre à Bataille. Et là, il y a dans ce silence-là, plus proche de Blanchot, quelque chose presque d'une sagesse qui est peut-être l'écart, qui peut-être tirerait Bataille vers quelque chose qui serait du côté du culturel. Il faut faire gaffe avec ça, mais je crois qu'elle tient quand même quelque chose d'une telle beauté, d'une telle évidence et d'une telle force quand on voit les photos, que je crois qu'elle est sur la fine ligne entre les deux.
Annelise Broyer, donc prix Niepce 2024. Je vais citer le prix Nadar qui récompense un livre remarquable et ses chambres 207 de Jean-Michel André, publié chez Actes Sud, qui a été distingué. Le prix Caméra Clara, réservé aux artistes qui travaillent à la chambre photographique. Eh bien, la lauréate 2024 est Alexandra Cattière. Et puis, on a très peu de temps, mais quand même, les lauréats de la Bourse du Talent en 2024 qui distingue un regard singulier sans distinction d'âge ni de nationalité. Trois photographes ont reçu le prix. Hassan Kourbambaev, Guillaume Holzer et Carla Hiraldo Volo, qui était votre coup de cœur, Philippe.
Oui, c'est une ancienne élève de l'ECAL, l'école d'art de Lausanne. Je trouve qu'elle fait le pont justement avec Laïa Abril, puisqu'elle travaille sur justement l'avortement clandestin en République dominicaine. Elle se met en scène elle-même, ça pourrait être gênant, c'est complètement fascinant parce que il y a dans cette exposition qui semble tout à coup, on a l'impression que les images sont pas ce qu'il y a de plus important, il y a un art du cadre. Et la façon dont chaque image interroge, finalement, la façon dont chaque corps rentre en effraction dans le cadre, propose quelque chose d'assez troublant. Et les témoignages des jeunes filles sont écrits à la craie, comme à la main et à la craie, et donne un sens complètement incroyable aux photos. J'y suis allé dimanche, il y avait des jeunes filles qui, je pense, étaient allées bosser à la BNF et qui regardaient ça et rentraient totalement en interaction avec la série. Il y a enfin là quelque chose du très 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 contemporain qui peut être ce qu'on attend aussi des prix Révélation, qui, je trouve, marque vraiment des points, et je trouve qu'il fait un travail de relais avec un peu plus littéral, mais en tout cas avec le travail de Laïa Abril. Ça m'intéresse beaucoup.
Sally, rapidement, hein, il nous reste 30 secondes.
Oui, alors ce qu'il faut dire quand même, c'est que cette Bourse Talents, c'est pour des nouvelles écritures documentaires. Donc c'est vrai que ça dialogue de manière assez intéressante avec Laïa Abril, dans une part effectivement beaucoup plus intense sur la question de l'image. Hein, et je suis d'accord avec Philippe, hein, Carla Hiraldo Volo, c'est extrêmement, extrêmement intéressant, notamment sur ce qu'est en fait ce type de photographie, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un va s'intéresser à des femmes, en l'occurrence là, qui racontent leur récit d'avortement, leur propose de se prendre en photo elles-mêmes, parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est le fil en fait du déclencheur, et parfois la photographe rentre ou pas dans le cadre, c'est-à-dire qu'elle est parfois photographiée par la femme qui se photographie, ou alors on la voit en reflet. Et ce travail-là, en fait, de sa présence comme ça, qui est une sorte d'accompagnement, est assez juste.
Merci beaucoup. C'était la photographie à tout prix. C'est à la BNF, c'est gratuit jusqu'au 30 mars prochain.